Et donc on se retrouve dans les oreilles loin du front pour le dossier du jour qui sera consacré aux événements, comme on dit, de mai-juin 68. Et pour cela, on reçoit donc Dominique Damam, Boris Gobi et Bernard Pudal, tous trois professeurs de sciences politiques, qui ont coordonné un livre avec Frédéric Matonti, intitulé donc de manière très sobre « Mai-juin 68 », publié aux éditions de l'Atelier. Et qui reviennent donc sur cet événement très marquant de l'histoire sociale française, en regroupant divers textes portés plutôt par des politistes, des sociologues et quelques historiens, insistant de manière très claire sur la rupture dans les relations d'autorité qu'a porté cet événement de mai 68. Alors avant de discuter, d'en discuter avec nos trois invités, et peut-être d'augurer par cette émission, une série d'émissions consacrées à mai 68 sur lesquelles on reviendra sur divers points alors plus en détail, je vous propose alors d'attaquer bille en tête en revenant sur un discours qui est devenu célèbre, qui a remis aussi en partie au goût du jour mai 68, par-delà le fait que l'on fête le 40e anniversaire de l'événement cette année. C'est le discours qu'a prononcé Nicolas Sarkozy à Bercy et qui s'en prend très directement à l'héritage de mai 68.
Mai 1968 nous avait imposé le relativisme intellectuel et moral. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal, aucune différence entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Ils avaient cherché à faire croire que l'élève valait le maître, qu'il ne fallait pas mettre de notes pour ne pas traumatiser les mauvais élèves et que surtout, il ne fallait pas de classement. La victime comptait moins que le délinquant et ils avaient cherché à faire croire qu'il ne pouvait exister aucune hiérarchie des valeurs. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Ils avaient proclamé, les héritiers de 68, que désormais tout était permis, que l'autorité c'était fini, que la politesse c'était fini, que le respect c'était fini, qu'il n'y avait plus rien de grand, plus rien de sacré, plus rien d'admirable, plus de règles, plus de normes, plus d'interdits. Beau résultat en vérité. Souvenez-vous du slogan de mai 68 sur les murs de la Sorbonne. Vivre sans contrainte et jouir sans entrave. Eh bien, voyez comment l'héritage de mai 68 a liquidé l'école de Jules Ferry, qui était une école de l'excellence, du mérite, du respect, une école du civisme, parce que l'héritage de mai 68 a introduit le cynisme dans la société et dans la politique. Voyez comment le culte de l'argent roi, du profit à court terme, de la spéculation, comment les dérives du capitalisme financier ont été portées par les valeurs de mai 68, puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis. Voyez comment la contestation de tous les repères éthiques, de toutes les valeurs morales, a contribué à affaiblir la morale du capitalisme. Comment elle a préparé le terrain au capitalisme sans scrupules et sans éthique. Des parachutes en or, des retraites chapeaux, des patrons voyous. Je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes.
Et donc on se retrouve donc après ce discours de Sarkozy, ce discours haineux évidemment à l'égard de l'héritage de mai 68, on s'en doutait. Mais ce discours prend plusieurs formes, on peut y retrouver peut-être plusieurs critiques qu'on en entend généralement plus largement répandues dans la société. Donc une critique de l'autorité, mais aussi une critique d'une forme de crise morale héritée de mai 68 et qui dérive vers un capitalisme, comme il le dit, sans contrainte et complètement débridé. Donc c'est-à-dire mai 68 comme avènement d'une société individualiste. Alors, ma première question, ça serait peut-être celle-là. Dans le fond, qu'est-ce que vous avez à répondre face à toutes ces interprétations que Sarkozy porte ici de manière un peu caricaturale, mais qui sont peut-être plus largement répandues dans le monde social aujourd'hui?
Boris, tu commences. Je parlerai de l'école. Et toi, tu peux commencer sur...
C'est une question qui est complexe parce qu'elle se structure depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est vieux comme mai 68, la relecture de mai 68. Alors si on veut tracer rapidement l'idée selon laquelle mai 68 aurait été un événement individualiste, évidemment ça n'arrive pas dans l'immédiat après 68. Dans l'immédiat après 68, on se pose d'autres questions sur ce qu'a été l'événement. On essaie de le comprendre. Certains y voient un complot de la CIA, de Pékin, de Moscou, etc. D'autres, la répétition du Grand Soir, etc. Bon. Mais l'idée que ce soit un mouvement individualiste n'a pas encore émergé. Et pour cause, on est encore pris dans l'événement. Et rien dans l'événement, effectivement, ne laisse transparaître quoi que ce soit qui relève de l'individualisme. C'est plutôt vers la fin des années 70 et au début des années 80, et surtout au milieu des années 80, que cette idée-là va s'imposer. Et elle s'impose, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'impose en venant de secteurs très différents. Il y a une première critique en 78, de Régis Debray, qui est alors encore marxiste et encore républicain, il semble qu'il le soit toujours, si j'ai bien compris, et qui, dans modeste contribution aux cérémonies décennales du 10e anniversaire, quelque chose comme ça, va dénoncer mai 68 comme étant un événement qui, en réalité, aurait permis de moderniser le capitalisme. L'équation qu'il fait, c'est en libérant les mœurs, vous avez libéré le profit. Vous avez permis à la jeune bourgeoisie, à la nouvelle bourgeoisie financière, de s'affranchir du conservatisme moral qui était celui de la vieille bourgeoisie d'État, paternaliste, rigide, coincée, etc. Et du coup, vous avez permis finalement de lever des tabous, y compris sur l'argent, etc. Alors c'est une lecture qui a eu énormément d'importance parce que c'était l'une des premières à critiquer radicalement mai 68 et à le critiquer sous cet angle-là. Et puis ensuite, d'autres vont reprendre cette idée, mais en la retravaillant. Et ils viennent pas du tout de positions politiques semblables à celles de Régis Debray. Il y a Gilles Lipovetsky, qui est un philosophe... qui publie en 83 un bouquin qui d'ailleurs est toujours réédité en poche, hein, qui s'appelle « L'ère du vide », et qui, dans un petit article de la revue Pouvoir en 86, annonce cette idée que mai 68, en réalité, c'est la première révolution cool, indifférente, où on cherche à jouir plutôt qu'à prendre prendre le pouvoir. Ce serait le premier signe de la dépolitisation que lui pense caractériser le moment où il parle, c'est-à-dire le début des années 80. Donc ce serait un mouvement individualiste, mais pour lui c'est pas forcément critiquable. Mais c'est déjà une relecture orientée de mai 68. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sur quoi s'appuient ces gens-là pour avancer ce type d'idée. C'est pas du tout des archives, c'est pas du tout des témoignages, c'est même pas les faits même de mai 68, c'est quelques slogans piqués comme ça, surinterprétés et grâce auxquels ils vont dire bon bah voilà, vous voyez bien jouir sans entrave, c'est forcément hédoniste, c'est consumériste et finalement ça annonce la dépolitisation et la jouissance des biens matériels qui serait caractéristique des années 80. Et puis le troisième moment, peut-être le plus fort, c'est la publication par Luc Ferry, qu'on a bien connu comme ministre de l'Éducation nationale, et Alain Renaud, un philosophe, de La pensée 68. Donc c'est un ouvrage qui paraît en 85 et qui est republié en poche en 88. Et qui... c'est très retors, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un argument qui est compliqué, qui consiste à dire, bon, en fait, les 68ards, ils avaient des maîtres à penser. Et ces maîtres à penser, c'était Bourdieu, Lacan, Althusser, bref, toute la pensée critique des années 60, c'est-à-dire la pensée anti-humaniste. Et en fait, contre toute attente, la pensée anti-humaniste n'est pas anti-individualiste pour eux, mais individualiste. Parce qu'elle enlève le sujet, enfin, je vais passer sur le détail, c'est même pas intéressant, ça disqualifie le sujet au profit de l'individu roi, c'est le sacre de l'individualité, etc. Et donc, ils vont réemployer la thèse de Lipovetsky, mais en la radicalisant et en disant que c'est à la fois le symptôme de la pensée 68 et des 68 heures en général. Et cette idée-là commence donc à devenir l'idée dominante, la représentation dominante de mai 68, à ce moment-là, au milieu des années 80. Donc ça, c'est vraiment le premier temps. Après, je dirais, il n'y a que des... les gens ne font que renchérir dans ce type d'allégations. Mais enfin, l'essentiel est posé à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ne sont pas des... Aucun là-dedans n'est historien. Aucun n'essaie de voir exactement ce qui s'est passé en 1968. Quel était exactement le sens des slogans? Par exemple, le « Jouissez sans entrave », ça visait à émanciper l'individu des contraintes sociales et morales qui l'assujettissaient à un familialisme ou qui cantonnaient les femmes à des positions subordonnées, etc. C'est pas du tout le « Jouissez sans entrave » d'aujourd'hui qui est « Jouissez sans entrave de votre pognon et de votre capacité à solliciter de grands amis pour aller passer les vacances sur des yachts ou se faire convoyer par avion personnel de Bolloré pour aller en vacances ». Donc le discours de Sarkozy, de ce point de vue-là, est très intéressant. Il prend ce slogan, il met ce slogan comme ça en exergue, alors qu'en fait, il n'est pas en train de faire autre chose que d'annoncer les jouissez sans entrave de la droite, c'est-à-dire tout un ensemble de mesures fiscales qui vont permettre à la droite de jouir sans entrave de ses biens matériels et de ses capacités financières. Donc voilà un peu cette histoire, et qui finalement est rejouée dans le discours de Sarkozy, mais c'est une longue histoire, elle vient de loin et elle a au moins 30 ans, quoi.
Par rapport à ce constat que vous établissez de récupération idéologique, on va dire, de l'interprétation de mai 68, on peut supposer que le projet de votre livre, justement, c'est d'y confronter un autre point de vue basé sur d'autres sources. Donc, est-ce que vous pourriez nous exposer rapidement un peu quel a été le projet initial en réaction face à ce type d'interprétation?
Je vais répondre. Je ne sais pas si je suis le mieux à même de le faire. Mais en tout cas, une des caractéristiques du livre, c'est de redonner à la crise de mai-juin 68 une profondeur historique. Et donc de s'interroger non seulement sur l'événement, mais également sur l'ensemble des crises d'autorité qui se sont produites dans la société française à la fin des années 50 et dans les années 60. C'est tout l'objet de la première partie de l'ouvrage, de retrouver cette dimension historique des craquements, des rapports d'autorité au sein de la société, soit qu'il s'agisse de l'école, soit qu'il s'agisse de la famille, soit qu'il s'agisse des rapport entre les patrons et la domesticité, ou encore du colonisateur et du colonisé, ou à l'intérieur de l'usine dans les rapports de travail. Et donc c'est ce que nous avons voulu faire pour montrer d'une certaine façon qu'il y a des tendances très très profondes dans la société française qui de toute façon se seraient produites, auraient produit leurs effets et auraient enclenché des transformations sans doute très semblables à celles qui se sont produites après 68. Enfin, 68, ça a été un accélérateur, mais ce n'est pas la cause, ce n'est pas le déclencheur des transformations très profondes qu'a connues la société française entre les années 60 et les années d'aujourd'hui. Et donc, d'une certaine façon, c'est toujours paradoxal, ce travail d'imputation de responsabilité aux événements de mai-juin 68, on impute une responsabilité et une causalité aux événements, alors qu'il faut réfléchir sur les grandes transformations qui ont traversé la société à ce moment-là. Et si on reprend la thématique ou l'interrogation sur l'héritage, je parle à la place de Boris. Boris, à la fin de son introduction, dit un héritage dont il faut savoir hériter. Je dirais que c'est vrai qu'il y a un héritage dont il faut savoir hériter. Je pense qu'une des choses qu'on dit dans le livre et qui me paraît importante, et qui naturellement n'est pas dit par les hommes politiques conservateurs ou des penseurs conservateurs, c'est que s'il y a quelque chose à prendre en compte pour mai juin 68, c'est la prise de parole. La prise de parole et ce travail de rupture et de décloisonnement à l'intérieur de la société française. Voilà ce que, si on a un héritage à faire, c'est là où, me semble-t-il, il se situe. Je me tourne vers Bernard.
Peut-être alors.
Quelque chose à ajouter à
ça. On pourrait peut-être revenir aussi avec Bernard sur ce que c'est que l'événement lui-même. C'est-à-dire, on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, bon, parce qu'on garde quelques images en tête de manifestations étudiantes, par exemple. On a peut-être un peu oublié ce qu'a été cette mobilisation quand même particulière de mai 68 dans toute l'histoire sociale de France, que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour d'autres secteurs de la société. Peut-être Bernard.
Oui, le grand spécialiste de l'événement lui-même, c'est Boris. Mais je vais lui prendre la parole, si vous ne le voyez pas.
On a besoin de porte-parole.
Voilà. Oui, oui. Alors, effectivement, on a intitulé le livre « Mai-juin 68 », d'abord à dessein. C'est-à-dire qu'il s'agit de restituer les dimensions d'une crise historique très importante. Plus grand mouvement de grève que la France ait connu au XXe siècle. Un mouvement étudiant et de la jeunesse intellectuelle et des professions, des relations entre individus, c'est-à-dire professions éducatives, journalisme, etc. Un grand mouvement donc, de mise en question des rapports sociaux d'autorité dans les phénomènes de relations et un pouvoir politique qui vacille. Un pouvoir de gaulliste, un pouvoir charismatique, entre guillemets, qui se trouve là, à la fin de son parcours, de ses possibilités, etc. Et donc, effectivement, c'est sans doute une des spécificités françaises, c'est ce moment de rencontre, de coïncidence, parce qu'il n'y a pas vraiment eu, à de nombreux égards, une fusion qui aurait pu donner une crise révolutionnaire, pourquoi pas. Mais en tous les cas, c'est cette conjonction de multiples crises qui commencent à résonner les unes par rapport aux autres et qui font de ce moment un moment de crise politique majeure de l'histoire contemporaine. Et ça, c'est une spécificité, je crois, française, dans la mesure où, effectivement, on peut retrouver dans la crise des fils qui, ailleurs, ont existé aussi. Les étudiants américains se sont révoltés aussi, etc., etc. Le mouvement de libération dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la lutte contre la domination masculine, on le retrouve ailleurs sur d'autres scènes. Dans le cas français, ça prend une forme où la quasi-totalité de la société est concernée. Et ça, c'est effectivement la spécificité, je crois, de mai-juin 68. Mais on reviendra peut-être là-dessus par la suite.
Alors, autre spécificité qui apparaît, enfin, par rapport à l'histoire qu'on connaît de mai 68, c'est que ben, ça ne s'est pas passé entre étudiants dans le 5e à Paris, mais qu'il y a toute la dimension non parisienne et non étudiante qui est remise en avant. Peut-être qu'il faut quand même dire deux mots sur cette distorsion entre la mémoire qui nous en est proposée et la réalité que vous proposez, par exemple, dans votre livre.
Je vais revenir là-dessus parce que je voudrais revenir sur la question scolaire dans une certaine mesure. C'est vrai que ce que rappelait Boris, c'est une bataille d'interprétation qui progressivement a au fond laminé cet événement en réduisant les acteurs, en nous donnant le sentiment que les principaux acteurs c'était les intellectuels médiatiques engagés à l'époque, etc. Et un des enjeux de notre travail, et je crois que nous y parvenons sur un certain nombre de terrains, c'est de montrer qu'évidemment c'est un peu plus compliqué que ça. Néanmoins, je tiens à dire que cela ne veut pas dire que pour des raisons que nous expliquons d'ailleurs dans le bouquin, sur lesquelles peut-être on sera amené à revenir plus tard ou un autre jour, ça ne veut pas dire que le groupe étudiant n'a pas été effectivement le groupe mobilisé, le groupe symbole de la crise de mai-juin 68 à bien des égards. Mais bien entendu, ça ne concerne pas. D'une part, principalement les étudiants d'origine bourgeoise ou je ne sais pas quoi, qui ont pris souvent qui ont parfois été à la tête de certains mouvements. Ce qu'on montre dans le livre, en tout cas, c'est qu'il faut prendre en compte toutes ces nouvelles générations d'étudiants issus des classes moyennes, issus des classes populaires, qui rentrent pour la première fois dans l'histoire, dans l'enseignement secondaire supérieur depuis le début des années 60. Et ça, c'est un phénomène historique majeur. De ce point de vue-là, quand Sarkozy dit ces conneries, parce que c'est vraiment pour moi qui suis quand même connais un peu l'histoire de l'appareil scolaire français, quand j'entends vanter l'école Ferry de la manière dont l'école Ferry est vantée, je trouve ça, ne serait-ce que sur le plan des faits, proprement scandaleux, ignominieux. C'est l'école Ferry, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, parce que ça correspond à une époque de l'histoire de l'alphabétisation des Français, etc. Mais pour l'essentiel, c'est une école qui est caractérisée par le fait que 90% des enfants ont un destin scolaire qui est limité au certificat d'études, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire à 13 ans. Autrement dit, la revendication d'une école Ferry, c'est inconsciemment, non pas la revendication d'une école qui marcherait bien, elle marche bien parce qu'ils n'y sont plus à l'école. Ouais, alors forcément, c'est très facile de le faire marcher. Alors ça, c'est quand même très important. Beaucoup de gens ne le savent plus, ne le savent pas. Et tiens, je tiens à le dire avec vraiment beaucoup de force, parce que c'est un phénomène historique, un phénomène de civilisation dans lequel nous sommes entrés dans les années 60, de la même manière qu'il y avait eu au 17e, au 18e, une alphabétisation généralisée. Ce qui est en jeu, et on est encore dedans aujourd'hui, c'est la généralisation à l'ensemble des jeunes générations de l'enseignement secondaire supérieur. Et cette généralisation, elle est encore notre présent. Et donc, quand Sarkozy fait ce contresens intéressé sur le passé, c'est aussi un contresens sur le présent. Parce qu'effectivement, je crois que ce qu'il vise, c'est toute une jeunesse, toute une série de mouvements, toute une série d'actions qui, aujourd'hui, sont les ennemis du sarkozysme. Et ça, c'est mon dernier point. Il est amusant de constater que le sarkozysme se traduit par une espèce de réhabilitation de toutes les mémoires, y compris Guy Môquet, etc. Il n'y a qu'un truc qui ne peut pas intégrer à son idéologie, c'est mai 68. Parce que, d'un certain point de vue, mai 68 est toujours actuel. Et effectivement, ce qui est actuel là-dedans, il suffisait, moi j'écoutais avec amusement tout votre introduction à cette émission, on pourrait reprendre tous les thèmes que vous avez évoqués, et dans une certaine mesure, c'est justement ça. Et ce sont des thèmes qui, d'un certain point de vue, font écho à des luttes de l'époque. Et donc on est effectivement dans une période historique qui est en pleine continuité, hein, de ce point de vue-là. Voilà, j'ai peut-être trop parlé, je m'arrête.
Ça, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver à l'imposer.
De toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron.
Tu disais ça il y a 3 semaines et plus un jour.
C'est une étape, c'est pas fini.
Ben oui,
c'est pas fini.
C'est bien ce qu'il a perdu, lui, t'as fait promis.
C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit, chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant.
Aux barricades de Gay-Lussac, les enragés en tête, nous avons déclenché l'attaque à foutre Dieu quelle fête. Et on jouissait dans les pavés en voyant le vieux monde flamber.
Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte.
Pour s'éclairer, les combattants mettaient le feu aux bagnoles, une allumette et en avant, poésie du pétrole. Il fallait voir les CRS se faire griller les fesses.
Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte.
Les blousons noirs politisés ont saisi la Sorbonne pour contester, pour briser. Ils ne craignaient personne. La théorie se réalisant, on a pillé les commerçants.
Tout ça pour prouver Carmela, que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver Carmela, que la commune n'est pas morte.
Que tu produis t'appartient, y'a que les patrons qui veulent te faire payer au magasin, c'est se foutre de ta fiole. En attendant de s'auto-gérer, on fera la critique du pavé.
Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte.
Les partis et les syndicats et leur bureaucratie ont trompé le prolétariat avec la bourgeoisie. Contre l'État et ses alliés, formons les conseils ouvriers.
Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte.
Maintenant que les insurgés retournent à la survie, à l'ennui, au travail forcé, aux idéologies, nous sèmerons pour le plaisir d'autres fleurs de mes accueillir. Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver Carmela que la commune n'est pas morte.
Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
Donc on est dans les oreilles loin du front et on parle dans ce dossier des événements de mai-juin 68. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Dominique Damam, Boris Gobie et Bernard Pudal. qui ont coordonné un ouvrage qui s'appelle Mai juin 68 aux éditions de l'Atelier. Avant la pause, on évoquait l'actualité de ce mouvement mai juin 68. Il y aurait peut-être quelques points à ajouter sur cette actualité pour montrer que cet événement n'est peut-être pas si isolé dans le temps, ne fait pas partie seulement du passé, comme Sarkozy l'a peut-être très bien compris et comme il faudrait peut-être qu'on le comprenne mieux nous-mêmes face à cela. Peut-être Dominique.
Non, je voulais ajouter simplement un mot là pour reprendre l'intervention de Bernard. Bernard se faisait remarquer qu'on était toujours dans une même séquence, hein, et en tout cas sous un aspect, hein, c'est simplement un aspect, mais sous l'aspect de la vie étudiante et de la question étudiante. Ce qui me paraît un phénomène tout à fait important, c'est que de 1900, des années 60 à aujourd'hui, d'une certaine façon, les tentatives qui avaient été tentées d'une sélection des étudiants et d'une orientation autoritaire des étudiants n'a jamais, jusqu'à présent, réussi à être institué. Et donc, on est dans une séquence d'une quarantaine d'années dans laquelle on assiste à une demande de formation universitaire très, très importante de la part du monde étudiant qui sont confrontés aux mêmes problèmes qui étaient ceux des étudiants dans les années 60, c'est-à-dire qui se heurtent à un appareil pédagogique et à des formes de sélection qui, naturellement, posent problème.
Hein. Oui, d'ailleurs, dans le livre, vous soulignez bien que c'est peut-être les premiers temps où un syndicalisme étudiant se met en place, définit un statut de l'étudiant un peu particulier et critique de manière très directe. Alors, pour le coup, la pédagogie même, la relation enseignant-enseigné dans les différents établissements scolaires. Vous pourriez peut-être un peu préciser cette mode de construction d'un syndicalisme étudiant particulier.
Écoutez, bon, c'est compliqué, mais disons que à quoi peut-on faire référence ? On peut faire référence à la définition qu'avait tenté qu'a adoptée l'UNEF à partir de 1946 de présenter l'étudiant, de définir l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel. C'est un jeune et c'est un travailleur, donc d'une certaine façon, il y a un lien à faire avec les autres travailleurs. Et c'est un travailleur aussi intellectuel. C'est donc quasiment, d'une certaine façon, un producteur culturel également. Et c'est vrai que dans la période des années, 63 à 1965-66, on a eu à la tête de l'UNEF un certain nombre de militants qui ont essayé de mobiliser le groupe étudiant en le rassemblant, en le faisant exister comme groupe, hein, à partir de cette proposition que l'étudiant était un producteur et un travailleur intellectuel, et en essayant de mobiliser le monde étudiant sur les conditions de travail qui étaient les siennes pour tenter de fédérer ce groupe. Et dans ce cadre-là, l'UNEF, mais d'autres, en s'appuyant notamment, par exemple, sur les réflexions de pédagogues ou de sociologues de l'éducation, ont entrepris un travail, notamment du côté de la psychosociologie, un travail de critique du rapport pédagogique en montrant les arbitraires, et notamment l'arbitraire scolaire et culturel, et le rapport en associant et en identifiant le rapport pédagogique à un rapport de domination. Hein, et donc tout un travail de critique qui va se diffuser et qui va passer dans la réalité pratique à partir des années 66-67, et notamment à Nanterre.
Oui, parce que cette critique de l'autorité, bon, elle se heurte évidemment à un pouvoir gaulliste à l'époque, mais du côté des forces de gauche, évidemment, il y a un parti communiste très important. Et là, pour le coup, on est dans une situation un peu différente de la situation actuelle, qui ne reçoit pas forcément très bien ces discours, notamment sur la critique pédagogique. Vous avez étudié de près l'évolution, notamment de l'Union des étudiants communistes, qui était un groupement extrêmement important pour fédérer l'engagement politique des étudiants. Et est-ce que vous pourriez donner quelques éléments, alors, pour le coup, sur la politisation de ces étudiants dans des espaces particuliers et la manière dont le PC reçoit ça, quoi.
Oui, bah oui, bien sûr. Effectivement, les années 60, on est sur toutes les scènes, hein, et en particulier les scènes où les jeunes sont concernés, les étudiants, on est dans une phase de radicalisation, de politisation, qui est très importante, qui se traduit par un syndicalisme, on vient d'en parler, qui est sans rapport avec celui qui existe aujourd'hui dans le monde étudiant. Le syndicalisme de l'UNEF à l'époque, dans les années 60, c'est très puissant. C'est des organisations puissantes. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une des formes de politisation, c'est celle de l'Union des étudiants communistes, où on assiste, à la fin des années 50 et au début des années 60, à la création par le Parti communiste d'un mouvement spécifiquement consacré aux étudiants, avec un projet de la direction stalinienne du parti de l'époque, qui est de faire de ce mouvement de jeunes étudiants communistes un mouvement à la fois assujetti, subordonné, docile, et en même temps un mouvement dit de masse, de propagande du parti en milieu étudiant. Et quand on étudie de près ce qu'on a fait avec Matonti, le dossier avait été déjà un peu débroussaillé, mais c'est intéressant de le prendre, à mon avis, sous l'angle sous lequel on l'a pris. Quand on étudie de près ce qui se passe à l'intérieur de cette Union des étudiants communistes dans ses rapports avec le Parti communiste, on voit qu'au fond, c'est la crise de mai 68 qui se déroule avant mai 68, si j'ose dire, mais au sein du parti. C'est-à-dire que progressivement, ces jeunes étudiants communistes, qui sont désireux, je dirais, d'aimer le parti. Il faut comprendre ça. Ils ne sont pas dans une position qui consiste, pour eux, le Parti communiste, c'est encore un parti rêvé, entre guillemets, un parti d'ouvriers, un parti qui annonce une révolution. Ils ne sont pas sur des positions comme ça de contestation. Ils vont, mais en même temps, assez naïvement, d'un certain point de vue, dans une période où le stalinisme vient de s'effondrer, où la légitimité théorique du stalinisme est effondrée, ils vont commencer à s'autonomiser. Ils s'autonomisent, ils commencent à penser à leur propre compte. Donc, ils dérivent, ils dérogent, ils deviennent progressivement hétérodoxes. Et c'est très amusant parce qu'au début, la direction du Parti communiste, au fond, ça lui paraît scandaleux. Scandaleux que des gens, quels qu'ils soient, osent interroger la légitimité historique de ces dirigeants ouvriers, etc. Et d'un certain point de vue, c'est un crime de lèse-majesté. Ça n'est pas le contenu de ce qu'ils disent. Parce que, dans une certaine mesure, ce qu'ils disent 10 ans après, ça apparaîtra presque banal. Les questions qui se posent sur les conditions de passage au socialisme, etc., etc. Toute une série de questions qui sont les leurs sur le monde social, sur les changements dans la jeunesse, sur l'évolution du capitalisme, apparaîtront relativement banales, si j'ose dire. Donc ce n'est pas le contenu de ce qu'ils avancent, c'est tout simplement l'autonomie qu'ils acquièrent. Et là, ce qu'on étudie avec Matonti à partir des archives, parce qu'effectivement, une des dimensions de notre bouquin, c'est de revenir, autant commencer à revenir, parce qu'il y a énormément de travail encore à faire, mais c'est de revenir aux matériaux, hein, c'est de revenir aux situations concrètes dans lesquelles les acteurs vivaient, prendre les archives, prendre les témoignages, reconstituer des trajectoires, etc. Bon, ça, bon, je laisse les lecteurs, qui ne manqueront pas, après cette émission, découvrir tout l'intérêt de nos analyses dans le détail. Mais je reviens à mon point de départ. Donc, ces crimes de lèse-majesté, on peut les observer dans les archives, et on voit effectivement des propos qui sont tenus par des intellectuels communistes qui n'arrivent pas à comprendre, tout simplement, que les relations d'autorité au sein du parti soient modifiées par ces jeunes qui sont simplement plus autonomes. N'oublions pas que, par exemple, encore à l'époque, on est mineur jusqu'à 21 ans dans la société, etc., etc. Donc voilà, alors ça, c'est un cas où, malheureusement, pour le Parti communiste en tout cas, le travail qu'ils vont faire pour éliminer cette contestation, et ils vont réussir. Hein, c'est-à-dire que, alors que la majorité des étudiants communistes au début des années 60, progressivement, est dans des positions critiques, etc., ils vont, par toute une série de stratagèmes d'organisation classique, hein, éliminer ces oppositions et donc réussir à réinstaller une direction docile. Le résultat, c'est qu'en 1968, l'Union des étudiants communistes est quasiment absente en tant qu'organisation. Alors, c'est variable sur les premiers endroits.
Du point de vue des individus, c'est un peu différent, parce qu'une partie se sont recyclés dans d'autres.
C'est pour ça que je précise du point de vue de l'organisation. Parce que même l'Union des étudiants communistes, à certains endroits, dans certaines villes de province, et là aussi, c'est un des enjeux du livre, de déparisianiser un peu toute cette affaire. Mais en 68, ça se démultiplie de manière très différente, suivant que ça se passe à Aix-en-Provence, à Nantes, etc., etc. Et y compris au sein de l'Union des étudiants communistes, dans les cercles de province, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées. Mais en tant qu'organisation tenue bureaucratiquement, l'UEC va être absente ou quasiment des événements de mai-juin 68. Et dans une certaine mesure, ils ont été mis au pas. Voilà, vraiment. Alors, ceci étant dit, beaucoup des 68ards qui s'engagent dans les événements de mai-juin 68 sont issus, sont partis, ont été les exclus de cette histoire. Donc là, on voit comment le divorce entre certains étudiants et le mouvement ouvrier se joue déjà sur cette scène-là.
La contestation gagnait aussi la province. Devant l'agitation de l'université et l'occupation généralisée des usines, le gouvernement étudiait d'urgence la manière de régler le conflit.
Puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis.
Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça brûle dans tous les sens. Cet épouvantable sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont en rouille. Aïe la vache.
L'héritage de mai 68 introduit le cynisme dans la société et dans la politique. Voyez comment le culte de l'argent roi, du profit à court terme, de la spéculation, comment les dérives du capitalisme financier ont été portées par les valeurs de mai 68, puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis.
Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain, et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent! Reculez! Les étudiants chargent! Reculez! Les étudiants chargent!
La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leur père et qu'ils ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions, ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière. Et leur faire être, comme vous le disiez, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer. Et par conséquent, ce refus est évidemment un refus de violence. Donc, si vous voulez, on peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre en marche.
Nous lui avons dit qu'aujourd'hui dans la rue, il n'y avait pas seulement des étudiants en colère parce qu'on avait fermé la Sorbonne, mais qu'il y avait des étudiants, qu'il y avait des jeunes travailleurs, qu'il y avait des jeunes chômeurs qui nous demandaient qu'est-ce que vous allez faire des jeunes travailleurs. Aujourd'hui, toute une haine contre une certaine société ressort de la jeunesse qui est dehors dans la rue et qui font des barricades. Qu'il y avait des étudiants, qu'il y avait des jeunes travailleurs, qu'il y avait des jeunes chômeurs qui nous demandaient qu'est-ce que vous allez faire. Il y avait des étudiants, qu'il y avait des jeunes travailleurs, qu'il y avait des jeunes chômeurs qui nous demandaient qu'est-ce que vous allez faire des jeunes travailleurs.
Puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis.
Pulp Fiction, Jean-Paul Sartre, Nicolas Sarkozy, Daniel Cohn-Bendit, il n'y a pas de doute, vous êtes dans les oreilles loin du front. On continue sur le dossier mai-juin 68. Alors on a discuté, on a abordé la question des étudiants avant mai-juin 68. Boris, tu voulais revenir sur la question et peut-être tu pourrais peut-être aussi enchaîner alors du coup sur le moment mai-juin et dire en quoi, bon, ils ont été présents peut-être, et je trouvais ça vraiment important dans le livre, montrer qu'ils ont été présents, mais il n'y a pas qu'eux, et peut-être qu'aussi tous ces mondes se fréquentent un peu plus qu'à l'ordinaire.
Oui, sur la politisation étudiante antérieure à mai 68, et ce qui est intéressant, c'est que en réalité, la politisation étudiante organisée est en crise. Alors, Bernard est revenu sur l'UEC, mais l'UNEF a des problèmes d'effectifs, a perdu la moitié de ses effectifs, n'a plus de subventions publiques, sont dans une crise financière pas possible. Ils ne vivent que sur le capital symbolique, la renommée qu'ils avaient en raison des engagements qu'ils ont eus contre la guerre d'Algérie. Donc ça reste un syndicat dont les gens veulent s'emparer, donc il y a beaucoup de batailles pour le contrôle de l'UNEF, mais c'est quand même un syndicat qui est très, très affaibli au moment de mai 68. Donc ça renvoie à la question plus générale de la politisation étudiante non organisée, et cette question elle est absolument fondamentale, parce que sinon on ne peut pas comprendre l'élargissement de la crise à des étudiants qui n'étaient pas dans des organisations. Et donc ce serait compliqué et trop long de revenir sur la politisation étudiante avant, et de la jeunesse en général avant mai 68. Ça passe par la politisation d'un certain nombre de questions. Il y a le mouvement des résidences universitaires à partir de 1965 qui démarre à la résidence d'Antony, où il s'agit de pouvoir avoir le droit pour les garçons de visiter les filles dans les internats. Il y a les questions sexuelles commencent à être politisées, etc., etc. Donc il y a plein d'autres manières de se politiser quand on est jeune dans les années 60. Et il n'y a que ça qui peut expliquer le fait que, au-delà des effectifs militants, il y a eu en mai 68 beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres étudiants qui se sont trouvés impliqués. Et donc ça pose la question de, au-delà des étudiants organisés, les autres étudiants, puis les autres acteurs, ouvriers, salariés, etc., qui se sont ajoutés à la crise. Donc c'est le problème de l'élargissement de la crise, de ce qu'on appelle la désectorisation aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'une crise qui au départ est étudiante va se généraliser à l'ensemble de la société. Alors ce qu'il faut dire, c'est que de ce point de vue-là, le rôle de la répression est fondamental. Le 3 mai 68, dans la cour de la Sorbonne, il n'y a que des militants. Mais lorsque le contrat tacite qui est passé entre la police et ces militants-là pour l'évacuation de la Sorbonne, le contrat, c'est on évacue la Sorbonne, mais vous ne nous arrêtez pas. Et la police, à la sortie de la Sorbonne, les met dans les paniers à salade, soi-disant pour des contrôles d'identité, mais c'est perçu comme une rupture de contrat. Et là, il y a une solidarisation que personne n'attendait avec les étudiants qui étaient aux abords de la Sorbonne, puis les passants. Et ça donne le premier affrontement violent avec les forces de l'ordre.
C'est important de rappeler d'ailleurs que les affrontements n'ont pas été tendres à l'époque.
Non, alors il y a ça aussi c'est une histoire compliquée. À la fois, on aurait pu estimer que un tel degré d'affrontement aurait pu dégénérer beaucoup plus que ça. Donc il y a tout un ensemble de logiques qui explique que ça n'est pas dégénéré plus que ça. Mais il y a eu quand même des morts. Il y a eu d'innombrables blessés. La répression a été extrêmement violente à certains moments. À Sochaux, début juin 1968, il y a deux morts. Il y a aussi un commissaire de police qui s'est fait écraser par un camion lancé à vive allure à Lyon à la fin du mois de mai. Il y a Gilles Totin, le lycéen, qui était venu secourir, enfin qui faisait partie de ces étudiants qui étaient venus épauler les ouvriers à Flin pour empêcher la reprise du travail, qui s'est noyé dans la Seine en tentant d'échapper aux flics. Donc il y a une répression très violente. Et à chaque moment de la crise, la répression joue le rôle de radicalisation. C'est le cas dans la nuit du 10 au 11 mai, c'est la première nuit des barricades. La répression va jouer à la fois le rôle de radicalisation de la mobilisation étudiante et de solidarisation des syndicats ouvriers avec les étudiants sur le mode minimal halte à la répression. Et à d'autres moments comme ça de la crise, la répression fait franchir des seuils de radicalisation à la mobilisation.
Mais comment expliquer le fait quand même que la violence n'ait pas été meurtrière, qu'il n'y ait pas eu que certains étudiants, certains militants engagés ne soient pas passés à des actes beaucoup plus violents que prise d'armes ou je ne sais pas quoi.
Alors, de fait, la violence aurait été beaucoup plus importante si les étudiants et ouvriers mobilisés avaient tenté de prendre les lieux de pouvoir. Parce que alors là, ça n'aurait pas rigolé. Les forces de l'ordre, peu à peu, au bout d'un moment, elles ont compris qu'il fallait lâcher du lest. à Paris, par exemple, dans le quartier latin, et centrer les forces de l'ordre sur les lieux de pouvoir, et puis l'ORTF, etc., donc la radio-télévision de l'époque, et puis en province, les antennes, les relais de radiodiffusion, et puis les préfectures. Donc on laissait une petite marge de manœuvre. Sinon, les affrontements auraient été encore plus violents. Donc il y a effectivement ce désintérêt pour la prise de pouvoir de la part des manifestants qui fait que la violence n'a pas été plus importante que ça. Évidemment que si c'était attaqué à... ils ont brûlé la bourse, enfin l'entrée de la bourse, quoi. C'est même pas la bourse en elle-même, mais c'est le seul acte finalement. S'ils avaient essayé de prendre Matignon, on est évident qu'alors là, on serait entré dans une toute autre logique. Et côté policier, il y a eu une petite maîtrise des choses qu'il faut beaucoup relativiser, mais qui néanmoins est importante à souligner. C'est que si le préfet de police avait été non pas Maurice Grimaud, mais Maurice Papon, qui était son prédécesseur, et qui avait œuvré le 17 octobre 61 contre les Algériens de Paris, alors là, je pense qu'on aurait eu un événement beaucoup plus dramatique.
Et donc, on en était toujours à ces événements en tant que tels. Donc, tu disais, il y a des ouvriers. On voit aussi dans le livre, notamment à travers l'article d'Yvan Bruno, qu'on avait reçu ici, qu'il y a des paysans aussi qui sont mobilisés, même s'ils sont peu visibles. Alors, je ne sais pas, c'est une question. Est-ce qu'ils étaient d'ailleurs visibles à l'époque? J'étais surpris en allant sur les archives de l'INA de voir que dans les extraits des journaux télévisés de l'époque, on en parlait guerre. Quoi. On parle quand même que de Paris, déjà à l'époque. Alors, c'est peut-être une question que je vous pose. Et par ailleurs, quels sont les liens entre ces groupes-là, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se rencontrent de temps en temps en manif? Est-ce qu'ils ont des liens plus profonds?
Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle nous amène à valoriser le rôle de la province. À Nantes, à Angers, il y a eu des phénomènes de lutte collective, ouvriers, étudiants et paysans, qui ont pu prendre la forme, par exemple à Nantes, d'une gestion par les manifestants de certaines tâches ordinairement dévolues à la municipalité. Donc les ravitaillements, il y a des paysans qui vont offrir du lait gratos aux ouvriers qui occupent l'usine, leur usine. À différents moments, il y a des jeunes paysans qui sont autour de Bernard Lambert, par exemple, donc d'un certain type de syndicalisme agricole alternatif, mais qui sont encore soit à la FDSEA, soit au CDJA, mais qui ne mettent pas seulement en cause la modernisation des exploitations, mais la modernisation des relations sociales, etc., etc. Il y a des schèmes communs, il y a des désirs communs, il y a des façons de questionner le monde qui sont communes et qui peuvent expliquer qu'à certains endroits, pas partout évidemment, mais à certains endroits, il y a eu des jonctions entre ouvriers et étudiants. Ça, c'est clair, même si au niveau des organisations comme Bernard et Retière le disent dans le bouquin, ça n'a pas eu lieu au niveau des groupes collectifs, au niveau des directions syndicales et des directions étudiantes, mais... dans plein d'endroits, dans plein d'usines, il y a des rencontres étudiants et ouvriers. Et de même, il y a à Nantes, à Angers, par exemple, ça s'est documenté, puisqu'il y a des travaux là-dessus, antérieurs à notre livre, il y a eu des paysans, des étudiants et des ouvriers qui ont lutté ensemble.
D'accord. Mais lutter, c'est quoi les mots d'ordre? C'est quoi qui fait que, justement, ça s'agrippe ensemble?
Ben, il y a, du côté des paysans, par exemple, il y a certains qui s'interrogent sur, qui regrettent la trop faible absence de fils de paysans à l'école, et qui donc vont investir la question scolaire aussi. Et du coup, ça rencontre des problématiques étudiantes, d'une certaine façon, ou même des problématiques ouvrières. Et puis, il y a les logiques de situation. C'est-à-dire qu'à certains moments, des contacts s'établissent qui n'auraient probablement, là, pour le coup, pas été pensables à ce degré-là avant l'événement, mais qui sont favorisés par le fait que dans l'événement, et tu le rappelais, Cédric, on franchit les frontières sociales. L'événement est favorable au fait qu'on va voir ceux qui sont pas seulement dans notre monde, dans notre monde social, dans notre monde professionnel. Et c'est pas seulement vrai des étudiants, des ouvriers, des paysans. Il y a plein d'univers sociaux qui vont se mettre au diapason finalement de la lutte en reprenant les mêmes mots d'ordre.
Par exemple. Français immigrés, par exemple, qui peuvent se rencontrer à certains endroits. Quoi.
Oui, il y a... Alors ça, c'est une question... vous avez reçu leur pitié. Je ne sais pas si c'était sur mai 68, mais il y a effectivement des mobilisations aussi d'ouvriers immigrés. Alors, certains syndicats étaient un peu dubitatifs parce qu'ils estimaient que les ouvriers, dans la position subalterne qui était la leur, en particulier ceux qui n'avaient pas forcément des titres de séjour ou des contrats de travail très longs, ils étaient plus... finalement dociles par rapport aux directions d'entreprise parce qu'ils avaient peur, quoi, tout simplement. Alors qu'en réalité, ça a pu être vrai à certains endroits, mais pour ce qu'on sait, il y a quand même eu des mobilisations aussi d'ouvriers immigrés, ce qui renvoie à la mobilisation plus généralement des ouvriers OS qui sont cantonnés à des tâches parcellisées, qui subissent l'autoritarisme des chefs de façon violente parfois, et qui donc sont prédisposés à ne pas seulement revendiquer des hausses de salaire, mais à remettre en cause l'ordre usinier, les relations de travail au sein de l'entreprise et l'organisation même du travail, le travail aliénant, parcellisé, etc.
Et puis bon, on ne va pas tout relater aujourd'hui, mais on peut le voir aussi dans d'autres scènes, notamment chez les architectes qui s'intéressent de près aux manières d'habiter et de vivre, chez les médecins aussi qui discutent de médecine et avec les patients et pas simplement d'être en usant une relation de distance. Alors je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas quitter l'émission sans aborder la question de Guillaume, quoi. Dans le fond, une partie du discours, notamment du discours de gauche, consiste à critiquer mai 68 sous le fait que les gens que l'on connaît, notamment les leaders étudiants, sont devenus, sinon des grands bourgeois, du moins une partie des représentants d'un ordre plus ou moins conservateur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer à ce niveau-là, quoi ?
Moi, très rapidement, ça c'est leur histoire et c'est pas l'histoire de mai 68. Et c'est l'intérêt, c'était l'un des objectifs du livre, c'est de montrer que leur histoire d'abandon des idéaux de jeunesse, bon, ça c'est une chose, après tout, pourquoi pas, chacun a le droit d'évoluer, mais de théorisation, des justifications de cet abandon-là par une relecture de mai 68 qui visait surtout à légitimer la position où ils étaient arrivés. C'est ce que fait Serge Julli en 78 dans la revue Esprit, lorsqu'il dit, au fond, si on enlève le marxisme et le gauchisme, qui étaient vraiment des archaïsmes, d'ailleurs dangereux, au fond, la vérité de mai, c'est que c'était libéral-libertaire. C'est la première apparition du terme. Et après, ce terme-là est revenu, il revient toujours d'ailleurs, on le lit dans des dossiers de presse, dans des revues, etc., pour qualifier la génération entière. Alors qu'en réalité, ça n'est éventuellement le cas que de certains leaders mais qui ont produit la théorisation de leur propre parcours et l'ont généralisé à l'ensemble de la génération. Mais ça, après tout, c'est leur histoire, il faut déconstruire ça. Et il y a un papier dans le livre d'Éric Neveu sur les 68 heures anonymes, l'importance qu'il y a à dire, finalement, la vérité de mai et des postérités de mai, elle est dans les trajectoires des 68 heures anonymes, de ceux qui ont cherché à faire vivre cet événement-là, dans leur pratique, dans leur monde privé, mais qui n'ont pas accès aux médias. Donc évidemment, ça ne se voit pas, ça n'a pas été retenu par la mémoire.
Oui, un exemple là-dessus. Alors effectivement, on parle des traîtres. Pour trahir, faudrait-il être sûr que leur manière d'avoir investi l'événement, la crise, est effectivement aussi révolutionnaire qu'ils ont parfois prétendu l'être. Alors je crois, par contre, en termes d'héritage, les véritables héritages de mai 68, c'est-à-dire la manière dont de très nombreux acteurs sociaux, des étudiants qui vont devenir profs, qui vont devenir instits, qui vont devenir éducateurs, qui vont devenir psychologues, qui vont rentrer dans le droit du travail, etc. La manière dont ces gens-là ont, dans leur propre vie, changé leur rapport à l'autorité et, d'un certain point de vue, fait évoluer effectivement la société. Alors ça, je crois que c'est le véritable héritage de 68. Et effectivement, il est difficile à percevoir parce que, d'un certain point de vue, ils ne sont pas représentés sur les scènes de la théorisation et des interprétations de l'événement ou sur les scènes politiques. Et ça me semble tout à fait fondamental. Et ce que montre le livre, et là on revient à l'actualité, c'est que quand on reconstitue ce genre de filiation, on retombe sur les nouveaux mouvements sociaux aujourd'hui, par exemple. On retombe sur d'autres façons d'investir le syndicalisme, la CGT ou la CFDT aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs. Et en réalité, il y a effectivement beaucoup plus de filiation qu'on ne le croit. Et donc, tout l'intérêt, tout le sens de notre travail, ça n'est pas fait pour ça, mais c'est que de faire une étude un peu sociologique et historique de l'événement, des acteurs, au plus près de leur lutte effective, de leurs contradictions, de leurs illusions. Il ne s'agit pas non plus de faire de mai juin 68, je ne sais pas quoi, une page, je ne sais pas si ça existe, moi, des pages comme ça, heureuses, merveilleuses, avec une révolution, et le bonheur est au bout de la révolution, j'en ai pas encore rencontré, bon, ça, c'est un autre problème. Mais néanmoins, l'objectif, c'est effectivement de contraindre les lecteurs à essayer d'avoir une perception de l'événement qui soit débarrassée des interprétations qui viennent en réalité l'occulter. Voilà, ça, c'est, si on arrivait à faire ça, je pense qu'on aurait quand même rendu un petit service. Est-ce que j'ai encore le temps de faire une anecdote ? Non.
Bon, très rapidement.
Non, très rapidement. Par exemple, dans un film d'Yves Geland, je trouve ça extraordinaire, il y a un jeune postier, il était jeune à l'époque, qui est homosexuel, qui est viré de la Fédération de la Jeunesse Communiste et qui raconte qu'en 68, il est allé écouter les étudiants pendant 2 mois à Toulouse. Et il dit, au début, je n'y comprenais rien. Au bout de 2 mois, je trouvais ça passionnant. Et en plus, ils étaient mignons. Alors voilà, mai 68, c'est aussi ça. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ce métissage entre mondes sociaux, groupes sociaux différents, qui effectivement, d'un certain point de vue, n'est pas allé aussi loin que ça aurait pu aller. Mais c'est aussi ça la vérité, je crois, des relations et de leur efficacité dans la durée de mai 68. Parce que le gars, aujourd'hui, c'est un des militants de Sud. Hein, il est en fin de carrière et il continue à militer sur toute une série de terrains. Et ça, je trouve que c'est ce genre d'acteur plutôt que Glucksmann et autres pantins qu'il vaut mieux essayer de penser. Voilà.
On va terminer sur ce mot en disant évidemment qu'on a fait qu'effleurer certains aspects de vos recherches et du livre et de mai juin 68 plus généralement. On rappellera que dans l'ouvrage on peut retrouver des articles consacrés au colonialisme, au gaullisme, au féminisme, aux crises d'autorité dans les usines, au journalisme, etc. Donc là on renvoie à l'ouvrage. On rappelle aussi qu'on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions de manière un peu plus précise. Donc on recevait aujourd'hui Dominique Damas, Boris Gobi et Bernard Pudal pour le livre Mai-Juin 68 aux éditions de l'Atelier. Il y a une bonne nouvelle, c'est ça coûte 27 €, ce qui peut paraître cher, mais c'est pas si cher parce qu'il y a 450 pages. En même temps, c'est un peu vite dépensé puisque c'est tellement passionnant que vous l'aurez lu dans la nuit.
La contestation gagnait aussi la province. Devant l'agitation de l'université et l'occupation généralisée des usines, le gouvernement étudiait d'urgence la manière de régler le conflit.
Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures. Le nouveau monde s'éveille, il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, voilà, ce soir, nous étions du côté des manifestants et nous n'en sortions pas. Et pour tenir la barricade, on retrouvait la bande à Jagger avec l'homme de la continuité historique, celui qui, chaque semaine, sort un groupe de l'anonymat, un groupe de rock'n'roll oublié du public. C'était donc Guillaume Yom. Il y avait aussi le travailleur intellectuel précaire qui sait aussi mettre son doigt sur des boutons. C'était Atomic Jérémy. Il y avait encore le jeune travailleur manuel radicalisé, celui qui ouvre des tranches avec ses doigts. C'était Raphaël. Et puis, pour poser des questions avec la bouche, il y avait celui qui a niqué avec la fille du dernier sabotier, c'était Cédric. Il y avait aussi Alex. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. D'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi, tu meurs de froid.